Vous êtes avec SBS French. Les grands titres de ce 8 février, le projet de loi sur la discrimination religieuse débattu au Parlement fédéral, les titulaires d'un visa et qui ont reçu deux doses du vaccin contre le Covid-19 seront autorisés à revenir en Australie à partir du 21 février prochain. Le cyclone Batsirai a fait plus de 20 morts à Madagascar. Les groupes représentant les personnes handicapées sont profondément préoccupés par les possibles impacts néfastes du projet de loi sur la discrimination religieuse qui va être débattu au Parlement cette semaine. La Fédération australienne des organisations de personnes handicapées et d'autres groupes représentatifs ont écrit au gouvernement fédéral et aux députés pour s'opposer au projet de loi controversés. Ils sont particulièrement préoccupés par les dispositions du projet de loi autorisant les déclarations de conviction qui autoriseraient les commentaires qui offensent, humilient ou insultent les autres tant qu'ils expriment véritablement la foi d'une personne. Les modérés du Parti libéral craignent déjà que le projet de loi aille trop loin car il pourrait permettre aux églises et aux écoles religieuses de mettre en place une politique de discrimination contre les étudiants et les enseignants gays et transgenres. La députée libérale tasmanienne, Bridget Archer, a déjà indiqué qu'elle s'opposerait au projet de loi dans sa forme actuelle. Le Premier ministre Scott Morrison a réitéré son engagement à faire avancer cette législation. Le Premier ministre Scott Morrison, on l'écoute.
They could have their religious faith and they could have their belief and they could have their community and they could have their culture and that they would not be discriminated against. I don't want them to be discriminated against, and before the last election I said I wanted there to be laws in place that ensured their freedom from that discrimination. And that's what this is about.
Le chef de l'opposition travailliste Anthony Albanese a déclaré que le Parlement devrait parvenir à un consensus sur ce projet de loi.
We support the idea, of course, that you shouldn't be discriminated against on the basis of your faith, just as you shouldn't be discriminated against on the basis of your gender or your race or your sexuality. And it shouldn't be beyond the capacity of the Parliament to deal with this in a way that builds consensus.
De nouvelles règles de quarantaine pour les contacts étroits entrent en vigueur en Western Australia à partir d'aujourd'hui, 8 février, alors que l'État cherche à contrôler la propagation du Covid-19. Les contacts étroits, des cas positifs et les voyageurs de retour devront désormais s'isoler que pendant 7 jours au lieu de 2 semaines. Une décision que le chef de l'État, Mark McGowan, a niée d'avoir cédé aux pressions de l'industrie minière et de l'Australian Medical Association. Mark McGowan déclare que le changement est basé sur des conseils de santé.
We'll be moving to our higher caseload testing and isolation guidelines. These new protocols are not a sign that the pandemic is over. They signify the start of the real impact of Omicron in Western Australia.
Le gouvernement du Victoria étend son système de tests rapides antigènes aux établissements d'éducation et de garde de la petite enfance. Les familles d'enfants âgés de 3 à 5 ans en garderie se verront proposer des tests rapides 2 fois par semaine, mais ils ne seront pas obligatoires. Environ 1,6 million de tests seront livrés aux jardins d'enfants au cours de la prochaine semaine, puis étendus à des garderies plus larges. Cela s'ajoute aux 943 000 tests déjà fournis au personnel des garderies et des maternelles. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, affirme que cette décision offrira aux parents la tranquillité d'esprit.
It's all about trying to support every family to have that peace of mind, to have a sense of certainty about whether their child has got this virus. It is wildly infectious. It can, particularly amongst young people, you can have it and not necessarily present with any symptoms. So this expansion of our school rapid antigen test program to kinders and childcare for students and our smallest Victorians. That's a great boost forward.
Le Victoria a enregistré 20 décès et 9785 nouveaux cas avec 575 personnes hospitalisées et 72 personnes en soins intensifs. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 18 décès, 2068 personnes à l'hôpital et 132 personnes en soins intensifs. Le Queensland a signalé 12 autres décès depuis hier liés au coronavirus, dont 9 étaient des résidents âgés. Aucun n'avait reçu une dose de rappel et 3 personnes n'étaient pas vaccinées. 11 des personnes décédées avaient entre 60 et 90 ans, mais il y avait aussi une personne âgée d'une trentaine d'années. On écoute le chef de la santé du Queensland, John Gerrard.
It's not clear to what extent COVID played a part in this person's death, but it could have played a part. So we include this case for the sake of transparency.
Il y a 663 patients de COVID-19 dans les hôpitaux de l'État, 42 personnes en soins intensifs. La crise ukrainienne, avec la rencontre du président français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine à Moscou hier lundi. La réunion a duré 5 heures. Reportage de Anissa El-Jabri pour RFI.
Le président russe l'assure, ni lui ni Emmanuel Macron ne veulent d'une guerre Russie-OTAN qui n'aurait pas de vainqueur disposé, je cite, à tout faire pour trouver des compromis qui satisferont tout le monde. Vladimir Poutine, comme à chaque fois qu'il aborde le sujet, a dressé un réquisitoire contre l'OTAN, cette organisation présentée comme pacifique, a-t-il dit, avant de citer la guerre en ex-Yougoslavie et en Libye en contre-exemple, deux épisodes qui sont très souvent cités en Russie. Critique aussi de l'élargissement de l'organisation atlantique et enfin de l'Ukraine, jugée encore et toujours seule responsable du conflit. Bref, rien de neuf, sauf sur les nouvelles propositions d'Emmanuel Macron. Certaines d'entre elles sont possibles pour jeter les bases d'avancées communes, dit Vladimir Poutine. Signe que la Russie, en tout cas pour l'instant, les prend au sérieux. Le président russe a jugé prématuré de les rendre publiques.
Les manifestations contre les restrictions sanitaires du Covid-19 dans la capitale du Canada, Ottawa, se sont prolongées jusqu'à un dixième jour, alors que le maire de la ville a déclaré l'état d'urgence. Il y avait moins de monde au cours du week-end, mais le convoi de camions de la Liberté continue de klaxonner et de perturber la circulation. Le chef de la police d'Ottawa, Peter Slowly, affirme que la force policière a arrêté des gens et saisi des milliers de litres de carburant.
We've had 20 arrests and charges, criminal arrests and charges of individuals who have broken the law directly or indirectly in regards to this demonstration. We've issued over 500 tickets to those individuals who've come here, mostly in conveyances, trucks, SUVs, cars, for unlawful conduct, bylaws, provincial offenses and criminal code offenses. We have towed vehicles and we have towed trucks.
Le variant Omicron en Corée du Sud, avec quelques 30 000 cas détectés par jour en moyenne. Nicolas Roca, RFI.
Chaque jour, les files d'attente s'allongent devant les nombreux centres de dépistage de la capitale sud-coréenne. Alors que le nombre d'infections explose, le système de test s'est adapté. Il faut désormais avoir un autotest positif avant d'avoir accès à un PCR. Mais surtout, la stratégie dite des 3T, tester, tracer, traiter, est abandonnée. C'est pourtant bien le traçage de ces cas contacts qui a permis au pays de limiter les décès durant deux ans. Mais Omicron a rendu cette stratégie obsolète et irréalisable. Jung Eun-kyung, directrice du Centre coréen de lutte contre les maladies infectieuses.
Il est temps désormais d'introduire une nouvelle stratégie sanitaire qui corresponde aux caractéristiques du variant Omicron. La clé de cette politique, c'est de transformer cette stratégie 3T pour répondre aux variants en mobilisant efficacement nos ressources vers le diagnostic rapide et le traitement des malades à risque. Ainsi, nous limiterons le nombre de tests et suspendrons les enquêtes épidémiologiques afin de limiter la pression sur le système de santé.
Les projections des autorités prévoient entre 130 000 et 170 000 infections quotidiennes d'ici la fin février. Mais pour l'instant, les cas graves restent limités, ce qui peut inciter les Sud-Coréens à l'optimisme. Le président Moon Jae-in a même déclaré aujourd'hui qu'Omicron était la dernière étape avant le retour à la vie normale. À voir désormais si la volonté politique correspondra à la réalité sanitaire.
Israël est scandalisé par des révélations de cyberespionnage menées par la police israélienne contre des citoyens israéliens. Précision de Sami Boukhelifa pour RFI.
Élus, militants des droits de l'homme, dirigeants de médias, hauts fonctionnaires, d'après le quotidien Calcaliste, un large éventail de personnes ont été la cible de ce cyberespionnage. Parmi les plus connus figure par exemple l'un des fils de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. À la suite de ces révélations de piratage à grande échelle, l'actuel chef du gouvernement en fait la promesse, cela ne restera pas sans réponse. Les faits présumés sont très sérieux, explique Naftali Bennett dans un communiqué. Parmi les outils utilisés par la police israélienne figure le fameux logiciel espion israélien Pegasus. Depuis l'été dernier, ce programme est au cœur d'un scandale mondial. Vendu à plusieurs pays, il aurait servi, comme en Israël, à voler des données sur les téléphones de journalistes ou encore de responsables politiques. Pas question toutefois pour les autorités israéliennes de critiquer ce logiciel. Pegasus est un outil important dans la lutte contre le terrorisme, estime par ailleurs Naftali Bennett.
En Chine, la joueuse de tennis Peng Shuai a nié avoir jamais accusé quiconque d'agression sexuelle, ajoutant qu'elle avait supprimé ses publications sur les réseaux sociaux qui semblaient faire une telle affirmation. Mademoiselle Peng a affirmé sur les réseaux en novembre dernier qu'un ancien vice-premier ministre chinois l'avait agressée sexuellement dans le passé. Elle a ensuite été absente de la vue du public pendant près de 3 semaines, mais dans une nouvelle interview accordée au journal L'Équipe dans un hôtel de Pékin, la femme de 36 ans déclare qu'elle n'a jamais dit que quelqu'un l'avait agressée sexuellement. Elle a remercié ses collègues professionnels du tennis, les personnalités sportives et la communauté au sens large de s'être inquiétée de son bien-être, mais elle maintient qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Reportage de Stéphane Lagarde à Pékin pour RFI.
C'est ça, le tennis ne figure pas au programme des compétitions des Jeux d'hiver, mais son nom est revenu plusieurs fois à Peng Shuai lors des conférences de presse à l'intérieur de la bulle sanitaire de ces JO. Sourire veste rouge de l'équipe chinoise de hockey. Elle confie au quotidien français que tout va bien, qu'elle n'a jamais disparu, qu'à aucun moment elle n'a subi d'agression sexuelle, qu'elle n'aurait pas été victime de censure, Peng Shuai, et qu'elle aurait même effacé son message du 2 novembre dernier parce qu'elle en avait envie, dit-elle. Un poste dans lequel elle affirmait pourtant qu'un ancien dirigeant chinois l'avait contrainte à des rapports sexuels forcés, des dénégations qu'elle a également formulées devant le président du CIO lors d'un dîner samedi soir. Une manière de clore l'histoire, si elle veut une enquête, bien sûr nous la soutiendrons, avait expliqué Thomas Barr, mais cela doit être sa décision. Principale info de cette interview de l'équipe, à 36 ans, Peng Shuai raccroche la raquette, elle affirme mettre fin à sa carrière professionnelle et donc à de potentielles questions dérangeantes lors de conférences de presse à l'étranger.
Le dernier bilan du passage du cyclone Batsirai à Madagascar fait état de plus de 20 morts et plus de 73 000 sinistrés. Les dernières nouvelles avec Sarah Teto pour RFI.
Fiana Ransou pense ses plaies. À minuit samedi, Batsirai a frappé cette grosse ville située dans le centre du pays avec des vents moyens estimés à 160 km/h. Deux jours après, Bruno, un habitant, raconte.
On a constaté beaucoup d'éboulements, des écroulements de maisons. Les trois rivières aux alentours de Fiana Ransou ont créé une inondation. À l'heure où je parle, on n'a pas d'eau courante. Je ne sais pas s'il y a des choses qui s'organisent dans les coulisses en ce moment, mais sur le terrain, on n'a pas vu de secours encore.
Des équipes locales de secours et une population moins préparée que dans le reste du pays. Des ressources logistiques, humaines et matérielles beaucoup moins nombreuses. Cette situation, les autorités et les ONG spécialisées dans l'aide d'urgence le confirment, à l'instar d'Angelo Navitatsar, le coordonnateur de programme urgence à Médère Madagascar.
Il y a certaines zones qui n'étaient pas vraiment incluses dans la liste des zones très exposées aux catastrophes, donc moins d'efforts dans la sensibilisation, comme à Fiana Ransou, à Mbouché, tout ça, à Yurumbi. Comme les gens sont moins préparés, donc ils sont plus vulnérables, donc les dégâts peuvent être catastrophiques dans ces zones-là. Et on a des informations assez limitées dans ces zones-là.
La collecte de données par survol aérien et sur terrain doit se poursuivre dans toute l'île jusqu'à la fin de la semaine.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 26 degrés. Adélaïde, 34. Melbourne, 31. Hobart, 23. Canberra, 24. Sydney, 25. Brisbane, 30. Cairns, 31. Darwin, 31. Et à Alice Springs, très chaud, maximal de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce 8 février, le projet de loi sur la discrimination religieuse débattu au Parlement fédéral cette semaine. Le cyclone Batsirai a fait plus de 20 morts à Madagascar. Fin du journal et merci de rester avec nous.
«
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.